La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Vous vous intéressez ce matin à une zone grise sur la carte du monde de l'épidémie de coronavirus, l'Iran.
Oui, une zone gris foncé même, et pour deux raisons. Il y a d'abord ce que l'on sait de la propagation du virus dans ce pays, les chiffres officiels, une centaine d'Iraniens contaminés, mais surtout au moins 15 morts, ce qui en fait le deuxième pays en termes de mortalité après la Chine, selon donc les informations confirmées par le Tehran Times. Et puis, il y a ce que l'on ne sait pas, les zones d'ombre, et la manière dont on tente forcément de remplir ces vides. L'Iran, nous dit le Middle East Eye, est grippé avant tout par les rumeurs et contre-rumeurs qui se propagent au moins aussi vite que la maladie elle-même. Ce qui inquiète, c'est d'abord, on l'a dit, le taux de mortalité beaucoup plus élevé qu'ailleurs, et comme aucune raison valable n'est avancée pour l'expliquer par les autorités, les hypothèses les plus alarmantes circulent hors des médias officiels. Car les autorités iraniennes en matière de fiabilité et de transparence, ce n'est pas franchement ça. La population en a plus que conscience. En tout cas, elle n'a pas confiance, diagnostique le Middle East Eye. Et ça ajoute à la confusion. Après, notamment l'épisode du Boeing ukrainien abattu par erreur en janvier, le sceau du mensonge est gravé dans tous les esprits. Et quoi que dise le gouvernement aujourd'hui sur le coronavirus, il n'est pas cru. Ou en tout cas, il est suspecté de ne pas tout dire. Alors peut-être pour des bonnes raisons, pour ne pas propager la panique dans la population, mais avec l'effet complètement inverse.
Et pour ne rien arranger, le vice-ministre iranien de la Santé a dû lui-même révéler hier qu'il était atteint du Covid-19.
Et cette confession vidéo filmée sur son téléphone portable a très rapidement fait le tour de l'Iran et du monde. Iraj Arirchi, c'est son nom, explique avec un semblant de sourire que lui aussi vient d'être testé positif au coronavirus, qu'il s'est de lui-même placé en confinement, qu'il a de la fièvre mais que ça va et qu'il est sûr que l'Iran va vaincre le virus dans les semaines qui viennent. La démarche se voulait transparente et rassurante, mais la vidéo est très vite devenue virale, si vous me permettez l'exposition, tout comme celle filmée quelques heures plus tôt, où on voyait ce même vice-ministre de la Santé, fiévreux, toussant, s'épongeant le front à plusieurs reprises pendant un discours de son supérieur. C'est d'autant plus fâcheux, encore, rappelle la BBC, qu'Iraj Arirchi, encore lui, avait été le plus virulent au sein du gouvernement lundi pour repousser les témoignages pourtant issus du camp conservateur qui faisait état de dizaines de morts du coronavirus rien que dans la ville de Qom au cours du week-end. Qom, épicentre de l'épidémie en Iran, où, d'après ce que nous apprend le quotidien réformateur Amshari, le président de l'université de médecine qui dirigeait l'équipe de lutte contre l'infection a lui aussi été diagnostiqué positif. Nous n'avons plus de commandant en chef pour mener la bataille, alerte donc les équipes médicales sur place. Pour Jason Rezaian du Washington Post, ça ne fait plus aucun doute. Le gouvernement iranien utilise le mensonge comme principale réponse à l'épidémie qui le frappe de plein fouet, une réponse jugée inepte et malhonnête. Alors, The Economist tout de même tient à reconnaître aux autorités de Téhéran des circonstances atténuantes, à commencer par le fait que l'Iran a toutes les peines du monde à importer le matériel médical nécessaire, les kits de diagnostic du virus en particulier, à cause des sanctions économiques très dures imposées par les États-Unis. D'ordinaire, la communauté internationale regarde ailleurs, puisque les souffrances qui en découlent touchent seulement la population iranienne. Mais là, le risque est beaucoup plus vaste, conclut The Economist, que l'Iran devienne le foyer incontrôlé qui pourrait contaminer tout le Moyen-Orient.
Bon, on va en reparler dans quelques instants avec nos invités au sujet du coronavirus, mais tout autre chose, Camille, retour à présent sur trois nuits consécutives de violence dans les faubourgs de New Delhi, en Inde.
Alors, et allons droit au but, hein. Ce sont des quartiers à forte majorité de population musulmane au nord de la ville qui sont pris pour cible depuis dimanche soir par de véritables expéditions punitives. Au moins deux mosquées vandalisées la nuit dernière à Mustafabad, d'après le récit qu'en fait le site de reportage The Wire. Un groupe d'une cinquantaine d'hommes armés a déferlé dans le quartier, attaqué les lieux de culte et les fidèles, dont des enfants qui s'y trouvaient. Des maisons, des commerces ont été incendiés, le tout au son de chants nationalistes hindous, et les policiers indiens regardaient ailleurs, accuse encore The Wire. Pire, il ne fait plus grand secret en Inde que ce sont des responsables politiques du parti majoritaire, le BJP, du Premier ministre Narendra Modi, qui ont mis le feu aux poudres intercommunautaires. Les propos que leur prêtent les différents reportages que j'ai pu lire ce matin sont clairement des appels à la haine et à la violence contre la minorité musulmane en Inde. Les scènes que je viens de décrire se sont reproduites dans plusieurs quartiers nord-est de New Delhi ces trois derniers jours, et The Times of of India nous indiquent à l'instant qu'elles ont fait au moins 20 morts dans toute l'agglomération. Le souci, comme l'indique cette fois la chaîne NDTV, c'est que les blessés musulmans ont bien du mal à se rendre dans les hôpitaux pour se faire soigner. La police les en empêche souvent ou bien on refuse de les prendre en charge. Autant dire que le bilan véritable de ces violences pourrait être bien plus élevé. Tout est parti dimanche soir d'une manifestation de la communauté musulmane, comme il y en a déjà eu des centaines depuis que le gouvernement Modi a fait passer plusieurs lois clairement nationalistes, pro-hindous et discriminantes pour les musulmans. Mais dans un contexte sécuritaire très tendu avec la visite de Donald Trump à quelques kilomètres de là, le rassemblement dimanche soir a viré à l'affrontement entre groupes communautaires. Un policier a été tué et depuis donc, les discours de haine contre les terroristes musulmans se sont multipliés dans les rangs du pouvoir. Des groupes de suprémacistes hindous ont pris les armes et l'on connaît désormais la suite. Cette violence, cela fait des mois, voire des années que Narendra Modi et les siens la font monter, la font couver dans la population. Mais jamais encore elle n'avait explosé dans des proportions aussi meurtrières. C'est l'analyse d'un professeur de sciences politiques indien, interrogé par The Financial Times. Il y explique que ce que l'on voit à New Delhi depuis dimanche répond à un schéma tristement classique en Inde. Un schéma qui consiste pour les responsables politiques, je cite, à créer les conditions pour déclencher à dessein ce qu'il faut bien qualifier de pogrom.
Merci Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr, 7h42.